Bien, bonsoir. Avant d'entamer notre rencontre proprement dite, quelques mots que les plus fidèles d'entre vous, et ils sont nombreux, m'ont déjà entendu prononcer. Donc je vous prie de pardonner la répétition, mais la pédagogie, nous le savons tous, c'est d'abord une affaire de répétition. Donc comme cette soirée est retransmise sur les ondes de RCF, cela nous contraint à une organisation un peu particulière. Donc notre rencontre va être divisée en deux temps. Une première partie pendant laquelle vous écouterez les différents intervenants et qui sera présentée par Jean Merkert, rédacteur en chef de projet. Et puis à la fin de cette partie, nous vous ferons signe d'applaudir, ce qui signifiera aux auditeurs de RCF que nous prenons congé d'eux. Voilà. Et puis une deuxième partie d'échange avec la salle habituelle, qui, elle, n'est pas retransmise sur RCF. Donc la première partie doit durer au maximum 55 minutes, et puis ensuite nous aurons tout le temps d'un débat entre les intervenants et avec vous. Voilà, donc si tout le monde est prêt, je pense que nous pouvons commencer. C'est bon ? Alors j'y vais. Bonsoir à vous, fidèles à ces mardis d'éthique publique au Centre Sèvres. Bonsoir aux auditeurs, de RCF qui nous écoutent également. Bonsoir à toutes celles et à tous ceux qui nous écoutent dans plus d'une dizaine de villes, de provinces, de France et d'Europe et même du Proche-Orient. La soirée de ce mardi d'éthique publique est un peu particulière puisqu'elle est organisée en partenariat avec la revue Projet au moment de la sortie d'un numéro de Projet, un dossier intitulé « Comment mesurer le bien-vivre ?» Et je vais tout de suite laisser la parole au rédacteur en chef de projet, Jean Merkert, qui va vous présenter le sujet de ce soir et les différents intervenants.
Cette revue Projet, créée par les jésuites il y a un peu plus de 100 ans, c'est un peu la petite sœur de la revue Études, et qui a la particularité de servir d'interface entre des acteurs qui tentent de transformer un peu la société avec le souci des plus fragiles, le souci de la planète, une interface entre ces acteurs et le monde de la recherche. Alors, je voulais en prélude à ce débat vous dire un peu la genèse de cette soirée, de ce numéro. Souvenez-vous que la question « Adieu la croissance » n'est pas nouvelle. Hein, Kenneth Boulding, qui est économiste et philosophe américain, on se souvient de sa célèbre citation, « Celui qui pense qu'une croissance infinie est possible dans un monde fini est soit un fou, soit un économiste. » Alors, cette citation date des années 60. Peu après, le Club de Rome jetait lui aussi un pavé dans la mare avec son fameux rapport sur les limites de la croissance. Tout ça, c'était il y a à peu près un demi-siècle. À ce moment-là, ces voix prophétiques criaient un peu dans le désert. Mais depuis une dizaine d'années, le fait que la croissance du PIB, le produit intérieur brut, est un très mauvais guide pour notre société, semble faire quasiment consensus. Hein, on a l'ONU, la Banque mondiale, l'OCDE, l'Union européenne qui ont tous proposé des indicateurs alternatifs au PIB. On se souvient aussi que le président Nicolas Sarkozy, lui aussi reconnaissait les limites du PIB, je le cite, en septembre 2009. Pendant des années, les statistiques économiques ont affiché une croissance forte comme une victoire sur la pénurie, jusqu'à ce qu'il apparaisse que cette croissance, en mettant en péril l'avenir de la planète, détruisait davantage qu'elle ne créait. Alors, ce qui nous a surpris, c'est que malgré ce quasi-consensus, on continue ou on semble continuer à ne jurer que par la croissance du PIB. Tous nos hommes politiques, nos éditorialistes scrutent cette croissance du PIB comme si d'elle dépendait toute notre prospérité. Alors, nous sommes d'abord demandé, ça fait l'objet d'un premier numéro en 2012, mais qui décide de ce qui compte ? Voilà. Et puis, 6 ans plus tard, on a remis le dossier sur le chantier pour nous demander pourquoi une telle addiction, et puis aussi pour regarder un peu toutes ces initiatives qui avaient tenté d'adopter des tableaux de bord alternatifs. Et c'est la question qu'on a voulu poser à nos intervenants ce soir. Pourquoi cette addiction au PIB? Quel bilan tirer des expériences alternatives? Et comment nos dirigeants pourraient-ils changer de tableau de bord? Alors, pour en parler avec nous ce soir, trois éminents intervenants. D'abord, Eva Sas, qui était députée entre 2012 et 2017 pour Europe Écologie Les Verts. Après l'essai et des études de philo, elle est devenue d'abord experte auprès des comités d'entreprise dans le cabinet Secafi, qui appartient au groupe Alpha. Donc elle s'est rendue compte petit à petit que elle était finalement écolo sans le savoir, et elle a pris sa carte chez les Verts où elle a gravi les échelons donc pour devenir députée. Pendant son mandat, non seulement elle était vice-présidente de la commission des finances de l'Assemblée nationale, non seulement elle a pris aussi la présidence d'une question très actuelle, l'association Élu contre les violences faites aux femmes, mais si on lui demande d'intervenir ce soir, c'est parce qu'elle est aussi l'auteur d'une loi portant son nom et visant à l'intégration de nouveaux indicateurs de richesse, une loi qui a été adoptée le 2 avril 2015. Alors nous aurons également Dominique Seux, qui est journaliste économique aux Échos, éditorialiste à France Inter, je le présenterai plus longuement tout à l'heure, et puis Xavier Ricard Lanata, qui est écologue, philosophe, et l'auteur d'un ouvrage paru l'an passé au Seuil, Blanche et la Terre. Je vais tout de suite passer la parole à Eva Sas, qui va tenter de répondre à ces questions avant de passer la parole aux autres intervenants.
Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, et merci de m'accueillir en votre enceinte. Je voudrais revenir en quelques mots sur effectivement les raisons pour lesquelles on a fait adopter cette loi sur les nouveaux indicateurs de richesse en avril 2015. On est parti du constat qui est aujourd'hui largement partagé, vous l'avez dit, des imperfections du PIB. Ce constat, maintenant, tout le monde le reconnaît. Le PIB ne dit rien des inégalités de revenus, il ne dit rien des dégradations environnementales, et il donne même paradoxalement une valeur aux destructions, puisqu'elles contraignent à consommer et donc à produire du PIB supplémentaire. Toutes ces critiques formulées sur le PIB, elles sont connues depuis longtemps, et particulièrement depuis le rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009. C'est donc effectivement presque un consensus. Mais au-delà de ces imperfections du PIB, ce qu'on cherchait à faire au travers de cette loi, c'était pas seulement compléter le PIB par d'autres indicateurs, c'était aussi pour nous un vecteur de changement culturel. C'était une façon de combattre l'idée que l'argent seul permet de s'épanouir. Le but de notre société, de notre politique publique, ne peut pas être le seul enrichissement de chacun, le seul accroissement du pouvoir d'achat, ce mot qu'on entend tous les jours. Donc pour nous, les nouveaux indicateurs de richesse, c'est véritablement un projet de société. Quand on décide de désacraliser le PIB et de suivre d'autres indicateurs comme l'éducation, la santé, l'environnement, bien sûr, c'est ce qu'on dit là, c'est que le bonheur et au moins la satisfaction de chacun, pour prendre une dénomination plus consensuelle, ce n'est pas que l'accroissement matériel. En effet, et d'ailleurs, quand on observe en fait la corrélation entre le PIB et la satisfaction dans la vie exprimée par les citoyens, qu'est-ce qu'on observe? On observe effectivement, si on compare les pays, que plus le PIB par habitant est élevé, plus effectivement le taux de satisfaction est élevé. Donc il y a une corrélation, mais cette corrélation, elle a une limite. À partir d'un certain niveau, en l'occurrence, quand Jean Gadret dit à partir de 15 000 dollars de PIB par habitant, on voit que la corrélation, elle est beaucoup plus incertaine. Et ce qu'on observe très concrètement aussi, c'est que le PIB peut augmenter dans nos sociétés occidentales sans que le niveau de satisfaction exprimé par les citoyens augmente. Très concrètement, par exemple, le PIB a augmenté de 75% entre 1975 et 2013 en France, et le taux de satisfaction est passé de 6,1 à 6,4. Donc on voit qu'il est resté quasiment stable, et si on observe la même chose en Italie, il est resté totalement stagnant. Donc on voit que l'accroissement du PIB à partir d'un certain niveau, en fait, n'accroît pas la satisfaction des citoyens exprimée dans une question qui est assez banale et qui est maintenant déclinée par Eurostat dans tous les pays, qui est « Êtes-vous satisfait de votre vie ?» et qui est donc quand même assez normée et qui qui fait transparaître quand même le bien-être exprimé par chacun et ressenti par chacun. Ce qu'on peut en conclure, c'est que, bien sûr, sortir de la pauvreté, c'est une chose, c'est-à-dire pour les pays les plus pauvres, c'est important, effectivement, d'accroître le PIB, mais faire de la progression du pouvoir d'achat la quête unique et infinie, comme vous le disiez, de nos sociétés, c'est, à notre avis, en tout cas, une erreur d'analyse, parce que ce n'est pas ce qui fera l'épanouissement des citoyens. Et c'est à partir de ces constats que on a voulu faire évoluer les mentalités et qu'on a voulu remettre la question des indicateurs de richesse dans le débat, puisque la France, en fait, avait été en avance, même au niveau international, au moment du rapport Stiglitz-Sen-Fitoussi en 2009. Mais en fait, depuis, il s'était passé très peu de choses. Donc on a voulu remettre cette question dans le débat public français. Donc on a fait voter une loi qui a été votée à l'unanimité, il faut le rappeler, et qui n'avait qu'un article qui disait deux choses. D'une part que le gouvernement doit remettre chaque année un rapport sur les indicateurs de qualité de vie et de développement durable au Parlement, et d'autre part qu'il doit analyser ses réformes passées et à venir à l'aune de ces indicateurs. C'était important qu'on instille l'idée que ça devait être un outil de pilotage des politiques publiques. Comme vous le savez peut-être, dans cette loi avec un article unique, on ne définissait pas les indicateurs parce qu'on a voulu donner à la société civile la possibilité de définir ce qu'est le progrès, en tout cas pour la société française. Il y a donc eu une conférence de consensus et un sondage citoyen qui a été organisé par France Stratégie et par le CESE. Le Conseil économique, social et environnemental, et qui a permis de déterminer 10 indicateurs qui ont ensuite servi de base aux rapports qui ont été édités par le gouvernement. Je ne sais pas si je dois citer les indicateurs, mais je vous en donne quelques-uns pour vous donner quand même le contenu concret de ce que c'est qu'un rapport de vos indicateurs de richesse. Ce qui a été déterminé par les conférences de consensus, c'était le taux d'emploi, l'effort de recherche, le taux d'endettement, l'espérance de vie sans incapacité, la satisfaction dans la vie, donc le fameux indice de bien-être que j'évoquais, les inégalités de revenus avec le rapport entre les 20% les moins riches et les 20% les plus aisés, la pauvreté en conditions de vie, les sorties précoces du système scolaire, l'empreinte carbone et l'artificialisation des sols. Donc on voit bien les thèmes qui reviennent d'ailleurs à chaque fois dans toutes les initiatives, qui sont en gros l'emploi, la santé, l'éducation, l'environnement. Et on retrouve dans toutes les initiatives internationales aussi ces dimensions-là, avec parfois des dimensions supplémentaires, comme dans le Better Life Index de l'OCDE, qui rajoute la notion de sécurité, qui est un peu différente de ce que nous avons voulu faire. Le premier rapport a été publié en octobre 2015, et le dernier a été publié il y a quelques jours, dans l'indifférence la plus totale, comme vous avez pu le remarquer. Donc, par contre, ce qui est positif, c'est que, au-delà du gouvernement précédent, la publication des rapports nouveaux indicateurs de richesse se poursuit. Bien que ce soit un nouveau gouvernement, il continue à appliquer la loi. Donc ça, c'est un élément positif, même s'il le fait avec 6 mois de retard, puisque normalement, il doit publier au moment du projet de loi de finances. Néanmoins, ce qu'il faut constater, et il faut avoir l'humilité de le reconnaître, c'est qu'il n'y a aucun écho aujourd'hui au rapport nouveaux indicateurs de richesse qui sont publiés. Et que l'ambition qui était la nôtre au départ, c'est-à-dire de détrôner le PIB, on est très très loin de l'avoir atteinte. Donc qu'est-ce qu'il faudrait, je crois que c'est l'objet un peu de la discussion de ce soir, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces initiatives remportent un succès? Moi, je définirais 5 facteurs clés de succès. Le premier facteur clé, à mon avis, c'est l'objectivité. Le deuxième, l'actualisation. Le troisième, standardisation. Le quatrième, rationalisation. Et le cinquième, communication. L'objectivité d'abord. Pourquoi je parle de l'objectivité? Parce que on a beaucoup reproché au rapport Nouveaux indicateurs de richesse qui était publié par le gouvernement d'être un outil de promotion des politiques gouvernementales et pour tout dire une plaquette de communication qui vantait en fait les mérites des différentes réformes qui étaient engagées par le gouvernement. Je partage cette critique. La façon dont c'est rédigé jusque-là, c'est effectivement loin d'être objectif. Donc il faut se poser la question de confier ce type de rapport à des organismes indépendants qui peuvent être l'INSEE par exemple, ou il y a une proposition de loi récente de Franck Montaugé qui propose par exemple qu'il y ait une contre-expertise du rapport gouvernemental qui pour l'instant est établi par les services de Premier ministre, par un organisme indépendant, et en l'occurrence il pense à l'OFCE. En tout cas, la notion de contre-expertise ou d'expertise indépendante sur les nouveaux indicateurs est importante pour que ce ne soit pas instrumentalisé comme un outil de communication, comme on a vu, par exemple, pour les rapports RSE aussi dans les entreprises qui deviennent des belles plaquettes sur papier glacé, mais qui finalement ne disent rien des efforts réels qui sont faits en faveur du développement durable. La deuxième chose qui est importante aussi pour que ces initiatives elles aient un véritable impact, c'est l'actualisation. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'aujourd'hui, dans le rapport Nouveaux indicateurs de richesse, qui vient de paraître donc en février 2018, on a des indicateurs comme celui des inégalités qui remontent à 2015, où l'empreinte carbone remonte à 2016 et encore sur une base estimée. Donc on est sur des indicateurs qui sont anciens. On est en train de commenter ce qui s'est passé il y a 2 ans. Ça a forcément un intérêt qui est assez limité. Et forcément, ça perd beaucoup de sa force dans l'intérêt que ça peut avoir de publier des indicateurs. Et pour ça, très concrètement, ça veut dire qu'il faut investir dans l'outil statistique. Il y a beaucoup d'investissements qui sont faits pour avoir un PIB tous les trimestres. Il faut avoir le même investissement pour avoir des indicateurs, des nouveaux indicateurs de richesse qui soient actualisés tous les trimestres de la même façon. Là, on pourra effectivement challenger le PIB, mais c'est seulement avec cet investissement statistique qu'on pourra le faire. La troisième chose, c'est la standardisation. Et je pense au niveau international, parce que l'important, c'est aussi la comparabilité avec les autres pays. Aujourd'hui, ce à quoi on assiste, c'est pas tellement une pénurie d'initiatives, c'est plutôt un trop-plein d'initiatives. Il y a énormément, finalement, vous les avez citées, d'initiatives qui sont menées soit par les différents pays, soit au niveau international. En 2010, l'OCDE a lancé l'initiative qui s'appelle Better Life Index. En 2015, c'est l'ONU qui a lancé les objectifs de développement durable. Il y a également des initiatives dans les différents pays. Il y a eu ce qu'on appelle le National Wellbeing Program au Royaume-Uni qui a été lancé par David Cameron et qui aujourd'hui d'ailleurs est plutôt peu ou prou abandonné faute de crédit. Il y a eu des initiatives également en Australie, il y a eu des initiatives parlementaires en Allemagne. Donc il y a un foisonnement d'initiatives, ce qui montre à la fois l'intérêt du sujet, mais en fait qui ne permet pas d'avoir une unification d'un tableau de bord commun à tous les pays. D'où la nécessité vraiment de standardiser au niveau international un choix d'indicateurs qui soient les mêmes dans tous les pays. Et la deuxième chose, surtout que ça me paraît tout à fait possible, parce que si vous regardez toutes ces initiatives, je le disais tout à l'heure, on retrouve toujours les mêmes thèmes, ce qui fait que le débat sur c'est quoi le bonheur ou c'est quoi le progrès, finalement, il faut le relativiser parce qu'on retrouve quand même à peu près toujours les mêmes préoccupations, l'éducation, la santé, les inégalités de revenus, la pauvreté, l'emploi et l'environnement. À côté du PIB et de l'endettement qui sont déjà bien installés dans le paysage. Donc on retrouve toujours les mêmes thématiques. Donc il y a possibilité d'harmoniser, de standardiser dans les différents pays ces initiatives sur les nouveaux indicateurs de richesse. Et d'ailleurs l'articulation est possible parce que si on regarde dans le détail, il y a même des indicateurs communs. Par exemple avec le Better Life Index par rapport au tableau de bord que nous avions proposé, il y a des indicateurs communs comme les inégalités de revenus, le taux d'emploi, le taux de satisfaction dans la vie, les émissions de gaz à effet de serre. Donc on est vraiment sur les mêmes thématiques, mais c'est pas totalement harmonisé et c'est dommage, ça fait perdre de la force en fait à ces indicateurs. Le quatrième élément, je dirais que c'est peut-être le plus important, c'est à mon avis la rationalisation. Parce que quand je dis il y a foisonnement d'initiatives, il y a aussi foisonnement d'indicateurs. Pour challenger le PIB, il faut vraiment faire cet effort de rationaliser, d'avoir 3 ou 4 indicateurs qu'on met en avant et sur lesquels on peut communiquer fortement face au PIB. Parce qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup trop nombreux. Par exemple, si je prends les objectifs de développement durable de l'ONU, il y a 17 objectifs de développement durable, mais ils sont déclinés en 169 indicateurs. Autant dire que pour faire une hiérarchisation et savoir comment se placer par rapport aux autres pays, on peut dire que trop d'informations tue l'information. Et même l'OCDE, dans le Better Life Index, il y a 50 indicateurs. C'est beaucoup trop. Ça permettra jamais de mettre en face du PIB, qui est cet indicateur simple, unique, communicable, facile à appréhender, un indicateur qui puisse avoir la même force de communication. D'où la nécessité de faire des choix. C'est toujours difficile. On a eu des débats interminables pour déjà réduire à 10 indicateurs. Moi, je pense que c'est déjà trop. Mais je pense qu'il faut réduire à un nombre plus restreint encore d'indicateurs. Après, on pourra avoir le débat sur la question des indicateurs synthétiques. Personnellement, j'y suis assez opposée. Il y a des indicateurs synthétiques et d'ailleurs, le Better Life Index, à partir de ces 50 indicateurs, il donne un index Better Life par pays. Mais en fait, il ne dit rien, cet indicateur, parce que quand vous agrégez des choses aussi différentes que l'éducation, la santé et l'environnement, qu'est-ce que ça va dire concrètement? Moi, je trouve que c'est beaucoup plus parlant de savoir, par exemple, quelle est l'empreinte carbone de chaque pays et de se mesurer par rapport aux autres pays sur un indicateur que tout le monde comprend et qui veut dire quelque chose, plutôt qu'un indicateur synthétique qui, à mon sens, en tout cas, ne parle pas vraiment à l'opinion publique. Et la dernière chose, c'est les moyens de communication. Je pense qu'il faut que les gouvernements et les organismes internationaux s'approprient le sujet et mettent des moyens de communication importants sur la question. On l'a vu avec le dernier rapport, quand on n'a même pas une conférence de presse pour annoncer la sortie du nouveau rapport, on est bien sûr effectivement que l'opinion publique ne s'appropriera jamais cette question, parce qu'à un moment donné, il faut mettre très concrètement des moyens de communication pour faire connaître ces indicateurs qui sont aujourd'hui trop peu connus. Voilà, j'ai fait le tour des facteurs clés de succès, à mon avis, pour que les initiatives prochaines émergent et puis surtout se rationalisent. Il me semble que, à mon sens, par exemple, l'OCDE pourrait être un bon vecteur pour avoir une initiative commune de rationalisation et qui donne de la force à des indicateurs alternatifs au PIB. L'OCDE, quand elle veut s'emparer d'un sujet, elle est parfois capable de faire bouger les choses. On l'a vu sur les paradis fiscaux, donc pourquoi pas sur les nouveaux indicateurs du richesse. Ils sont très investis sur la question. Mais comme je le disais, pour l'instant, il y a un peu trop de foisonnement, pas assez de rationalisation et pas assez de communication pour que ce soit une véritable alternative au PIB. Et puis, pour finir, peut-être, je voudrais qu'on reconnaisse que bien sûr, on peut être déçu du peu de succès qu'ont eu les premières initiatives, mais il faut quand même se rappeler que le PIB est un indicateur qui a été construit en 1934, qui est arrivé en France en 1945, et qu'il a fallu des dizaines d'années pour que ce soit un indicateur standardisé qui paraisse tous les trimestres et qui, dont la méthodologie soit absolument robuste et non contestée. Et c'est donc alors que les indicateurs de richesse au regard, c'est véritablement depuis 2009 qu'il y a ces initiatives qui sont prises dans les différents pays ou au niveau international. Donc c'est normal aussi qu'au bout de quelques années, on ne soit pas encore parvenu à détrôner cet indicateur qui est le PIB et qui a mis tant de temps à devenir aussi central. Donc moi, il me semble qu'il faut avoir à la fois de l'humilité, du courage et de la persévérance. Et je pense que au final, puisque le PIB est aujourd'hui très contesté, on le voit avec les questions d'introduire la prostitution ou la drogue dans le calcul des PIB, je crois que le fait que le PIB ne soit plus un indicateur parfait, complet, qui représente le bonheur de la société, je crois que maintenant, c'est une idée largement partagée. Pour installer des alternatives, maintenant, il faut, je crois, qu'il y ait cette harmonisation, cette standardisation, cette persévérance, ce courage. Et au final, il est très probable quand même qu'à terme, on arrive effectivement à avoir un panel d'indicateurs beaucoup plus représentatif de l'épanouissement de l'individu et qui dépasse la seule question de l'accroissement de la richesse matérielle.
Merci beaucoup, Eva Sas. Je rappelle à nos auditeurs de RCF que nous sommes au Centre Sèvres pour un mardi d'éthique publique, en partenariat avec la revue Projet, autour de la question « Adieu la croissance ». Alors je me tourne maintenant vers Dominique Seux. Vous êtes bien connu des auditeurs d'une matinale concurrente de RCF, celle de France Inter, où vous tenez chaque matin une chronique économique. Vous êtes aussi délégué de la rédaction, directeur délégué de la rédaction du quotidien Les Échos depuis 2013. On sait peut-être moins que, après des études à Sciences Po, vous avez passé 2 ans au Maroc comme responsable d'un bureau d'ingénierie. Et puis, à titre privé, vous êtes aussi vice-président du mouvement eucharistique des jeunes. Alors, pour vous, être journaliste, c'est, je cite, « trouver un équilibre entre l'esprit de conviction et le doute ». Alors, vous avez dit ça absolument. Alors, Eva Sas nous a rappelé l'ambition de la loi qui porte son nom sur les nouveaux indicateurs de richesse, qui n'était rien de moins que de détrôner le PIB, le produit intérieur brut. Alors, j'aimerais vous entendre sur cette question, faut-il détrôner le PIB? Et puis, Eva Sas a aussi esquissé un certain nombre de pistes pour que la croissance du PIB cesse de nous obnubiler. J'aimerais vous entendre aussi sur ce point.
Merci Jean, bonjour à tous. D'abord, merci d'avoir bravé l'appel du petit écran et du football, puisque j'ai l'impression que la France entière est mobilisée par un match ce soir, et ça prouve que la salle est en pleine. Cette salle attire à chaque fois, et je remercie évidemment et félicite le Centre Sèvres. Pendant que vous parliez, et vous mentionnez le désintérêt des médias pour le nouveau rapport qui est sorti effectivement il y a 10 jours, sur les nouveaux indicateurs de richesse. Alors j'ai immédiatement regardé sur mon téléphone pour voir si on en avait parlé dans Les Échos, et je dois avouer que non. Nous n'en avons pas parlé dans Les Échos, mais j'ai listé quand même les indicateurs, et j'ai constaté quand même que, fort heureusement, la plupart de ces indicateurs sont des indicateurs qui sont partiellement connus, en tout cas, et qui existent par ailleurs. Sachez en tout cas, l'indicateur qui peut nous intéresser tous, c'est que l'indice de satisfaction des Français est de 7,2 sur 10, et c'est à peu près stable depuis 2010, sachant que ce sont les plus jeunes, les 16-24 ans, qui sont les plus satisfaits de leur vie, les plus âgés, l'étant un petit peu moins. Je ne sais pas si c'est vraiment, si c'est totalement une surprise. Cette question de la croissance, elle est absolument passionnante. Évidemment, en tant que journaliste, on se pose économique très souvent la question des indicateurs que l'on met en avant. Quels sont les plus pertinents, quels sont les plus sensés. Ça n'est pas une question complètement nouvelle. Jean le rappelait tout à l'heure. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu le livre Sapiens. Vous vous souvenez de, qui est sorti il y a assez peu d'années, de Yuval Noah Harari. Et il raconte, je crois m'en souvenir, c'est le premier débat sur le sens de la croissance et du PIB, c'est il y a disons 10 à 15 000 ans, il raconte que la révolution agricole, il y a 10 000 ans, a été la plus grande escroquerie de l'histoire. Et pourquoi dit-il ça? Parce que dans les 2,5 millions d'années qui ont précédé, les hommes vivaient en étant en chassant, en se nourrissant de la cueillette, et ils étaient parfaitement heureux. Et est arrivé, explique-t-il, la révolution agricole, et là, nous, les sapiens, nous nous sommes mis à enfermer les animaux, à cultiver, à être prisonniers de la culture du blé, et nous avons commencé à être esclaves. Et nous avons voulu croître, et nous avons voulu élever davantage d'enfants, et nous avons voulu mieux nous nourrir. Il explique que c'était le premier piège de la croissance. Je ne suis pas tout à fait certain de partager son point de vue. J'ai un léger doute. Les limites de la croissance, au-delà de cette boutade, on les connaît évidemment tous, et vous les avez rappelées bien évidemment. Un exemple extrêmement récent, Eurostat a publié la semaine dernière, Eurostat c'est formidable parce qu'il y a des données absolument dans tous les sens, tous les jours, qui sont malheureusement assez peu regardées, a publié les PIB par grande région et par pays en 2016. Et on s'apercevait que le PIB de l'Irlande, qui était le 12e en 2014 des 28 pays de l'Union, était passé au troisième rang en 2016, en 2 ans. Fantastique relèvement du niveau de vie, de bien-être, de bonheur des Irlandais. Hélas, non, ça n'est dû qu'à une seule chose, c'est que Apple a localisé tous ses brevets immatériels dans ce pays. Il n'y a pas d'exemple plus frappant, je crois, que du nonsense des limites, évidemment, du PIB. Et on connaît d'autres limites, bien sûr, la comptabilisation décidée par le gouvernement il y a très peu de temps, pour des raisons européennes, des trafics de drogue, de la drogue, légale ou illicite, dans le PIB, qui va remonter le PIB, je crois, d'une trentaine de milliards d'euros. Je ne sais pas s'il faut s'en féliciter. Les accidents de la route, chacun le sait, contribuent au PIB, ne serait-ce que par les réparations, etc., etc. Et évidemment, il y a la grande incertitude sur le PIB que nous, on affronte tous les jours, qui est celle de comment comptabiliser le numérique dans l'activité économique. On a eu du mal d'abord à la constater dans les baisses de prix des produits et l'amélioration des produits en rapport. Comment quantifier les applications, comment quantifier tous les produits qui arrivent. Ce que je veux vous dire, en fait, c'est que je crois qu'évidemment, le PIB est un indicateur pertinent, mais évidemment, il est insuffisant. Et je trouve, je saute quasiment à la conclusion, mais c'est que je crois que les choses vont plutôt dans le bon sens. La multiplication des indicateurs, qu'ils soient officiels ou non officiels et des débats, prouve que sans détrôner le PIB, parce qu'il reste malgré tout, et je vais essayer d'en parler le plus robuste, cet indicateur doit évidemment être complété, et je pense que ça se fait de plus en plus. Et je vous parlerai un petit peu de la façon dont la presse voit les choses. En gros, ça veut dire qu'on ne survalorise pas la croissance, mais on sous-valorise d'autres indicateurs, l'environnement, les inégalités. Il y a quand même quelque chose, et je joue un petit peu je suis un peu chargé, j'imagine, ici à cette table, de jouer le contre, le défenseur de la croissance et de l'économie productive, peut-être. Quand même, si on n'est pas absolument sûr qu'un bon niveau de croissance assure le bien-être à tous, et on en a évoqué les limites, on est relativement certain quand même qu'un mauvais niveau de croissance, voire une décroissance, sont généralement signes de mauvais état d'une société et de vie difficile pour les individus. Je trouve que ça devrait nous convaincre. Un exemple très clair, la période 2008-2016 a été globalement dans le monde occidental, en tout cas dans le monde européen, pas dans le monde américain, une période de stagnation, voire certains diraient de décroissance. Je ne suis pas certain qu'on ait été totalement heureux de cette décroissance-là. Alors naturellement, la réponse qui vient immédiatement, c'est le compte qui vient immédiatement. Oui, mais la décroissance, si on la choisissait, ce serait, et si on l'organisait, ce serait autre chose. J'ai quelques doutes sur la façon dont on organise cette décroissance. En tout cas, quand on prend les taux, les périodes de croissance forte de ces dernières années, prenons par exemple la période 1998-2007, globalement plutôt bonne, c'est à cette période qu'en France le taux de chômage a été le plus faible pour ces dernières années. 2008-2016, le taux de chômage a été élevé. C'est la même chose pour le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté, dont on connaît évidemment les limites du taux de chômage, notamment avec les emplois précaires, avec le halo du chômage, avec les situations intermédiaires entre l'emploi et le non-emploi. Malgré tout, quand même, le taux de pauvreté a augmenté ces dernières années quand le taux de croissance était faible. Donc il me semble quand même qu'il y a une causalité qui est forte. Une fois qu'on a dit ça, trois choses, trois messages pour ouvrir le débat, bien sûr. D'abord, quand même, quand on regarde la croissance, je pense qu'il est difficile de ne pas faire le lien avec la démographie. On oublie toujours la démographie. La majeure partie de notre croissance dans les pays développés, hyper développés d'aujourd'hui, c'est quand même la croissance démographique. Prenons un exemple. La croissance française de 2000... Si on dit que 2008, 1er janvier 2008, avant la crise financière, nous prenons l'économie à un indice 100. Où en est-on fin 2017? Grosso modo à 105, quelque chose comme ça. 105, 106. Si on prend le PIB par habitant, compte tenu de la croissance démographique qui est forte en France, le nombre d'habitants a dû grimper, je ne sais pas, 1,5 ou 2 millions d'habitants. Le PIB par habitant, 100 2008, aujourd'hui, il est de 100,8, c'est-à-dire une stagnation économique. Nous avons l'impression qu'il y a eu de la croissance faible. En réalité, le PIB par habitant, la croissance, a été quasiment nul, et ça n'était jamais arrivé en temps de paix depuis 1929. Ça n'était jamais arrivé sur une période de 10 ans. Donc la démographie est quelque chose de tout à fait essentiel. Alors après, ça ouvre un débat absolument passionnant pour savoir si la progression de la population, qui consomme des ressources naturelles aussi, est une chose positive, nécessaire, indispensable, dont il faut se glorifier. On a une tendance un peu en France à dire nous avons des déficits des comptes publics, des déficits commerciaux, mais nous avons une croissance démographique forte. Nous avions ce débat très souvent avec un de mes contradicteurs, ou plutôt j'étais son contradicteur, Bernard Maris, sur France Inter, et je dois dire que j'ai compris assez tardivement ce qu'il expliquait. Il expliquait qu'en fait, c'est une illusion totale de vouloir avoir une croissance démographique, que d'avoir un pays dont l'espérance de vie augmente. L'important, ça n'est pas finalement d'être plus nombreux ou de vivre plus longtemps, ça appelle évidemment des débats d'ampleur, c'est d'être heureux le temps que nous sommes sur Terre, et donc de ne pas chercher à avoir une croissance économique qui soit artificiellement nourrie. Premier point, le lien avec la démographie. Deuxième point, les indicateurs, je crois, se multiplient profondément, et vous l'avez dit. Quand je regarde les indicateurs que nous publions dans les Échos, donc médias économiques, évidemment, nous nous repaissons d'indicateurs économiques divers et variés. Oui, c'est vrai, il y a une dizaine d'années, l'indicateur du PIB était probablement celui qui était quasi exclusivement mis en avant. Il domine encore. Il domine la classe. Si je regarde les manchettes, si je regarde ce qu'on met sur le site en une, c'est l'indicateur plus ou moins solide, plus ou moins robuste, mais simple. Mais si je regarde l'ensemble de notre média, le taux de chômage, évidemment, le taux de pauvreté, on lui accorde beaucoup d'importance. On donne beaucoup d'importance désormais aussi. C'est pas depuis si longtemps, c'est vrai. Et c'est la vertu, évidemment, de tous les écologistes d'avoir poussé dans ce sens-là sur les indicateurs de CO2, d'émissions de CO2. On le faisait pas. Honnêtement, il y a 10 ans, enfin, il y a 15 ans, en tout cas, on ne le faisait pas. On en parle beaucoup. L'évolution la dispersion des revenus, les inégalités, la démographie, l'espérance de vie, le moral. Les grandes enquêtes, que ce soit celle du CVPOF qui est sortie il y a très peu de temps, qui quantifie d'une certaine manière le ressenti, la façon dont nous vivons notre situation dans la société économique, mais pas seulement, les indicateurs se sont multipliés. Et effectivement, je disais à l'instant que j'avais regardé la liste des 10 indicateurs, c'est ça ? 10 indicateurs. En réalité, c'est très bien qu'ils soient mis dans une somme et dans un document, mais la totalité d'entre eux était déjà connue et malheureusement d'ailleurs un peu datée 2016, hein, c'est ça, pour, ou 2015 pour certains d'entre eux. Mais ce sont des indicateurs, les données sont sur la table, et je trouve quand même que dans les médias grand public, je ne parle pas des médias économiques, qui d'entre vous peut dire qu'il n'entend pas régulièrement parler du taux de pauvreté, des inégalités, de l'espérance de vie, des fractures territoriales, des émissions de CO2. Je crois personne. Et donc le débat public a quand même beaucoup bougé. Alors évidemment, la troisième question, c'est, ok, nous parlons des indicateurs, mais au fond, le débat qui est derrière, c'est croissance, décroissance, faut-il continuer à avoir de la croissance jusqu'à épuiser les sols, épuiser la nature humaine, épuiser l'univers qui nous fait vivre. Alors, il y a plusieurs réponses à cette question du côté de l'économie, j'allais dire, libérale. C'est un gros mot, c'est épouvantable. La première, c'est la réponse classique, c'est dire oui à la croissance, mais il faut verdir la croissance, changer le contenu de la croissance. Et on voit bien la limite aussi de cette réponse-là. Mais c'est vrai, malgré tout quand même, que construire des éoliennes, des panneaux solaires ou utiliser différemment les industries, ça peut avoir le même résultat dans la croissance, mais ce ne sera pas le même contenu. Donc le chiffre de la croissance est une chose, le contenu, ce qu'on fait de la croissance, ou plutôt la façon dont elle se construit, c'est évidemment tout à fait essentiel, un contenu technologique ou pas. Et c'est la technologie, en partie, pas seulement, qui apporte les solutions. Les éoliennes et les panneaux solaires, il a bien fallu aller les inventer et les chercher. Ensuite, pour défendre la croissance quand même, c'est vrai que, et vous l'avez rappelé, au-delà d'un certain niveau de revenu, le niveau de satisfaction ne progresse plus beaucoup. Je ne sais pas très bien si c'est 15 000 dollars voilà, par an.
Oui.
Par an, ouais. C'est pas très élevé pour un pays développé. Ce qui, quand même, en fait, à quoi servit la croissance des 15 ou 20 dernières années dans les pays développés ? Pas tellement à nous enrichir, chacun, mais à financer des services collectifs. L'essentiel des gains de la croissance a servi à financer, un, l'augmentation des dépenses de santé, qui augmente de 2% par an en volume, donc qui mord sur les autres dépenses. Voulons-nous renoncer à cela ? Et ça renvoie au débat précédent sur que souhaitons-nous pour nous-mêmes, notre avenir, etc. Et je vais dire une grossièreté. C'est quand même la croissance et les surplus de croissance par rapport à nos besoins immédiats qui financent l'art, la culture, ce qui fait le superflu. Les pyramides ont été quand même, je crois, financé par les surplus du travail au-delà de, et c'était de la croissance. Troisième point, je lance des provocations exprès. Hein. Troisième point, et dernier point, j'arrête Jean, c'est promis. Quand même, on ne peut pas regarder uniquement le verre à moitié vide. Si on regarde les émissions de CO2, à combien sont-elles par rapport à 1990 dans un pays comme la France ? Aux États-Unis, c'est plus 10%, 8 à 10%. De cet ordre-là. Alors, c'est peut-être discutable, il y a des indicateurs différents et on va ouvrir là-dessus. Oui, bien sûr. Oui. En France, d'après les statistiques officielles du ministère de l'Environnement, je ne sais plus comment il s'appelle, l'équipement, environnement, c'est moins 14%, quelque chose comme ça. Donc, malgré tout, des efforts avec la croissance ont été effectués. Donc, je demande seulement qu'on ne diabolise pas de la croissance, mais qu'on l'enrichisse à la fois dans son contenu et surtout dans la multiplication des indicateurs. Et j'ai la faiblesse de penser que ça va malgré tout, je crois, plutôt dans le bon sens, à la fois sous pression internationale des ONG et pression nationale un peu partout. Voilà, pardon.
Merci Dominique Seux. Alors à nos auditeurs, je rappelle, rassurez-vous que vous êtes bien sur RCF. Vous êtes toujours au Centre Sèvres pour un mardi d'éthique publique autour du thème « Adieu la croissance ?». Alors je me tourne désormais vers Xavier Ricard Lanata. Vous êtes franco-péruvien, vous avez une formation d'ethnologue, de philosophe. Au Pérou, vous avez dirigé le centre Bartolomé de las Casas. Et de retour en France, vous avez dirigé les partenariats internationaux au CCFD Terre Solidaire, où nous nous sommes croisés, avant d'intégrer l'École nationale de l'administration. Alors vous travaillez désormais à la direction du Trésor, où votre liberté de parole détonne parfois, je crois. Mais ce n'est pas comme représentant du ministère des Finances que vous allez vous exprimer ce soir, mais parce que vous êtes l'auteur, dans le dernier numéro de la revue Projet, d'un article intitulé « Chasser le PIB, il revient au galop ». Alors, Dominique Seux, quelque part, en donnait l'illustration, c'est-à-dire qu'il nous disait que il fallait se rassurer que le PIB reste un indicateur pertinent, mais qu'il fallait le compléter par d'autres indicateurs. Dominique Seux a aussi exprimé son scepticisme sur l'idée de décroissance, cette décroissance dont le pape François nous dit qu'elle est nécessaire dans certaines régions du monde. Alors, Xavier Ricard Lanata, adieu la croissance.
Merci Jean. Il faut que j'appuie, voilà. Merci Jean, merci de m'avoir invité, merci à vous d'être venu ce soir. Évidemment, je crois que cette question est très provocatrice, et Dominique Seux a déjà commencé par lancer un certain nombre de pistes de discussion. Je pense qu'il faut absolument sortir le débat sur les indicateurs de croissance d'un débat strictement économique, voire technique. De ce point de vue, je suis d'accord avec mes prédécesseurs dans l'usage de la parole. Il faut que ce soit envisagé comme un débat de société. En revanche, je crois qu'il y a un certain nombre d'erreurs à ne pas commettre, et en particulier celle de croire que le débat sur les indicateurs, pour ou contre le PIB, par exemple, c'est un débat sur pour ou contre la croissance. C'est pas tout à fait la même chose. Et je crois qu'il faut faire preuve d'une grande circonspection, parce que dans une société où, par exemple, l'ensemble des échanges de biens et de services ne seraient pas des échanges marchands, ne donneraient pas lieu à une contrepartie monétaire, le PIB, qui est un indicateur qui mesure les échanges monétaires, hein, qui peuvent être tracés sur la base d'une transaction monétaire, le PIB serait nul. Et pourtant, il pourrait y avoir production de biens et de services, croissance de la production des biens et des services. Et de ce point de vue, on voit bien que la question de la mesure, la question de la représentation de ce que nous produisons et de ce que nous échangeons, et la question qui porte pas sur la représentation, mais sur la réalité elle-même de ce que nous produisons et nous échangeons, sont deux choses différentes. Donc, pourquoi, cependant, il y a une corrélation entre les deux, ou il y a un rapport entre les deux, c'est ce que je me propose d'explorer un peu plus à fond, là, dans les 12 minutes qui me sont imparties. Je crois qu'il y a trois grands enjeux autour de cette question des indicateurs. Un enjeu de politique économique, un enjeu de représentation, hein, du réel, et un enjeu enfin de démocratisation de la vie publique. Pourquoi un enjeu de politique économique? Quand le PIB a été inventé, c'est assez récent, hein, ça remonte pas à 15 000 ans. La question du PIB, elle s'est posée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, quand on a voulu se doter d'un tableau de bord pour mesurer les résultats des politiques de réindustrialisation de la France. Et à ce moment-là, il a fallu réfléchir à un indicateur qui serait un agglomérat et qui permettrait de voir si on atteignait ou pas les objectifs de redynamisation, de relance de l'activité économique en France. Il faut noter qu'au début, le PIB, ça ne concerne que non seulement les échanges marchands, mais les échanges marchands entre acteurs du secteur privé, parce que les administrations en sont exclues. Elles seront incorporées, alors même qu'elles facturent entre elles, hein, des services et des biens, elles ne seront incorporées au calcul du PIB que dans les années 70. Donc ça a quand même, à un moment donné, répondu à un besoin lié à une politique économique. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que ça ne marche plus? Déjà, un, ça ne marche plus parce que le taux de croissance du PIB est, depuis maintenant une quarantaine d'années, sur une pente qui tend vers zéro. Hein, on n'a pas dépassé les 3% depuis 73-74, à l'exception, je crois, de l'année 99. Et on est de plus en plus vers une pente qui tend vers entre 0 et 1, même si là, on se réjouit parce qu'il y a une espèce de petit rebond. Mais si on regarde les tendances de long terme pour tous les pays de l'OCDE, hein, pas seulement pour la France, le processus de stagnation du taux de croissance du PIB est une réalité. Et quand on regarde même le PIB par habitant, c'est-à-dire en intégrant la variable démographique, on s'aperçoit que, alors même qu'il a pratiquement doublé en 40 ans, d'une part, lui aussi est sur une pente de stagnation, et d'autre part, cette apparente extraordinaire accroissement, hein, de la quantité de richesses produites par habitant, voilà, fois deux en 40 ans, c'est extraordinaire. Imaginez, ça veut dire que chaque individu produit aujourd'hui deux fois plus de prospérité, de richesse. Eh bien, en dépit de ça, ça ne se traduit pas par une amélioration de la qualité de vie. Il n'y a pas seulement les indicateurs subjectifs, mais il y a le fait que le taux de chômage se maintient à des niveaux très élevés, les niveaux d'inégalité s'accroissent. Même si on discute la question du taux de chômage, parce que certains pays semblent avoir des résultats meilleurs que ceux de la France, en réalité, quand on regarde non plus le taux de chômage, mais le taux d'emploi, hein, qui est une variable tout à fait différente. C'est la question de savoir non pas si on cherche un emploi, mais si on est vraiment en train d'exercer un emploi ou pas. Et les taux sont relativement faibles. Le taux d'emploi est beaucoup plus faible qu'il n'y paraît. Et même dans des pays comme l'Allemagne, si on rapporte les taux d'emploi en Allemagne et en France, on s'aperçoit que là aussi les chiffres sont relativement semblables. Donc il y a un problème avec le PIB. Le PIB ne rend pas compte aujourd'hui des niveaux de satisfaction et de prospérité. Premier problème. Donc on peut pas lui adosser des politiques publiques qui soient qui permettent de répondre au problème du temps présent, hein, sous-emploi massif, Inégalité, raréfaction des ressources, appauvrissement de la qualité même de ces ressources, notamment des ressources naturelles, hein, fertilité des sols qui décroît, biodiversité qui disparaît. Quand on voit les engagements qui ont été pris par la France au titre de la COP21, hein, qui a comme objectif d'essayer de lutter contre le changement climatique, à part le taux d'émission de carbone, on a très peu d'éléments qui nous permettent d'apprécier si les trajectoires de décarbonisation de l'économie sont compatibles avec des niveaux de prospérité qui seraient stables, voire croissants. On ne sait pas à quoi ça ressemble une économie décarbonée. On ne sait pas comment une telle économie peut répondre à des besoins existentiels, hein, de reproduction non seulement des écosystèmes, mais des sociétés elles-mêmes. Donc, il y a un vrai problème qui est que pour construire des politiques publiques qui soient adaptées aux défis auxquels nous devons répondre aujourd'hui, nous n'avons pas l'indicateur qui a pu être à son époque le PIB, c'est-à-dire le PIB était au début l'indicateur dont la France de l'après-guerre avait absolument besoin pour mesurer l'impact et la réussite de sa politique économique de relance. Bon, premier point. Deuxième enjeu, la question des indicateurs, elle est essentielle parce que en réalité, ce qu'elle recouvre, c'est le problème fondamental de la représentation de la réalité. Dans des sociétés traditionnelles, Jean avait la gentillesse de rappeler que dans une vie précédente, j'ai été ethnologue, qui sont des sociétés à très faible intermédiation. Vous avez peu d'intermédiaires entre vous et la nature, vous avez peu d'intermédiaires entre vous et votre voisin. Quand vos conditions de vie se détériorent, vous en avez immédiatement la traduction et même vous pouvez en déterminer la cause. Vous voyez que vos troupeaux, quand vous vivez, je sais pas, dans des sociétés d'élevage, vos troupeaux deviennent plus petits, les animaux tombent malades, les pâturages sont de moins bonne qualité. S'il y a des conflits parce que l'on est trop nombreux à vivre sur des terres qui s'appauvrissent, les conflits donnent immédiatement matière à des arbitrages au sein même de la communauté. Et vous essayez de régler ces problèmes d'inégale répartition ou d'affaiblissement de la productivité globale de votre société par des instruments sociaux qui sont quasiment immédiats. Vous faites des grandes fêtes. Au cours de ces grandes fêtes, ceux qui ont plus de revenus le distribuent à ceux qui n'en ont pas. Vous rééquilibrez comme ça les revenus moyens à l'intérieur de votre groupe social. Vous prenez des décisions en matière de partage des terres, parce que l'usufruit est individuel, mais la propriété des terres est collective. Donc tout ça, c'est ce qui se passe dans les petites sociétés traditionnelles où l'économie n'est qu'une sphère, un sous-ensemble de la vie sociale. Aujourd'hui, nous vivons dans des sociétés à très forte intermédiation. Quand vous ouvrez votre robinet, vous ne pouvez pas savoir si l'eau qui coule, elle a été puisée à 300 mètres la surface du sol, ou si elle vient des écoulements de surface. Vous savez pas si vous êtes dans une situation de stress hydrique ou pas. Ça, c'est une façon de montrer à quel point nous avons une relation intermédiée à la nature. Mais c'est la même chose pour ce qui concerne la vie sociale. On vit dans des sociétés qui sont très complexes sur le plan social et il y a des quantités de couches de la société avec lesquelles nous ne sommes pas en rapport direct et quotidien. Donc nous avons du mal à apprécier la façon dont l'organisme social dans son ensemble se reproduit ou ne se reproduit pas. Et les tensions qui existent ne nous sont perceptibles que par l'intermédiaire d'indicateurs. Donc la question des indicateurs, c'est une question de représentation, hein, de la réalité. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, considérer que la seule manière adéquate de représenter la prospérité de la société, c'est en réfléchissant à la quantité globale, le volume global d'échanges monétaires, c'est de toute évidence faire preuve d'un aveuglement ou d'un prisme qui rend extrêmement étroite notre capacité d'entendre, de comprendre ce qui se joue réellement dans l'espace social et dans nos écosystèmes naturels. Donc cette question des indicateurs devient une question absolument déterminante si on veut se réapproprier notre propre réalité, hein, et ne pas faire que, en quelque sorte, elle nous échappe parce qu'elle est réduite à des à des systèmes d'interprétation qui ne rendent compte que d'une partie des chaînes de causalité ou de la réalité même de nos expériences quotidiennes. Bon. Troisième point, c'est un enjeu de démocratisation. Alors, pourquoi est-ce un enjeu de démocratisation ? Parce que on voit bien que ces débats sur l'orientation globale de nos économies, la façon dont nous voulons nous développer, la façon dont nous voulons échanger, produire, etc., sont généralement difficilement compréhensibles parce que précisément ils reposent sur des systèmes de valorisation qui sont techniquement normés. Et c'est ce qu'on indiquait, il y a un certain nombre d'indicateurs, il y a le PIB, mais il y a les autres, et donc on regarde les évolutions sur des graphes, on voit si ça monte, si ça descend, donc le débat démocratique est fragmenté, on a des réflexions sur le taux de pauvreté, on a des réflexions sur la manière de réduire les émissions de carbone, bon, ça produit pas un débat global sur le modèle, ça, vous voyez, ça produit, on continue à considérer qu'il faut absolument augmenter, par exemple, le taux de croissance du PIB, tout en se disant par ailleurs, mais dans une sous-section à part, qu'il faudrait aussi décarboner l'économie. On n'a jamais vu de découplage entre le taux de croissance du PIB et les émissions de carbone. Depuis l'ère industrielle, depuis le recours aux énergies fossiles, on l'a jamais vu. Mais on isole la discussion. On se dit, bon, augmentons, attention, c'est très important, et on se réjouit quand on a des hausses de PIB. Puis par ailleurs, on a une discussion par ailleurs en disant, ah non, mais attention, il faut réduire le carbone. Et puis ça serait pas mal aussi de réduire les inégalités, mais en même temps, attention, il faut aussi créer les conditions de l'investissement, et pour ça il faut nécessairement alléger les politiques fiscales, notamment en matière d'investissement. Donc vous voyez, on a en fonction de ces différents indicateurs des politiques qui sont segmentées, qui sont sectionnées en quelque sorte, et qui ne parviennent pas à produire une réflexion d'ensemble sur les stratégies de développement ou de prospérité de nos sociétés. Donc c'est absolument essentiel de replacer la discussion dans le cadre d'indicateurs qui soient non pas seulement multiples, comme c'est le cas de toute la batterie, mais qui soient, dans le débat, corrélés les uns aux autres. Hein ? Et je pense que c'est la grande vertu de réunions comme celle que nous avons ce soir, que de remettre en débat public des problématiques qui jusqu'à présent semblaient réservées à des experts. Ce qui a été fait dans certaines villes de France, et notamment à Lille, d'ailleurs Jean Gadret, dans le numéro spécial de projet dont il est question ce soir, qui a servi un petit peu de base de départ pour la table ronde que nous avons organisée, Jean Gadret se fait l'écho d'expériences locales où on voit bien à quel point le fait de discuter des différents indicateurs et de ce qu'ils représentent, de la manière dont ils donnent à voir des systèmes économiques, eh bien, que ce simple fait de mettre cela en débat publiquement ait été l'occasion d'une revitalisation du débat démocratique autour de la question du modèle économique me semble absolument essentiel. Donc il faut multiplier les initiatives comme celle-ci et s'emparer du débat sur les indicateurs pour précisément aller d'une discussion technique à une discussion plus générale et plus politique. Voilà.
Merci beaucoup Xavier Ricard Lanata. Merci aussi à Eva Sass et Dominique Seux. Merci enfin aux auditeurs de RCF pour leur fidélité à ces mardis d'éthique publique. Ce soir, c'était Adieu la croissance, point d'interrogation autour du dernier numéro de la revue Projet. Je crois que l'on peut applaudir nos intervenants. Bon, alors voilà, maintenant que nous sommes entre nous, n'est-ce pas, nous allons pouvoir passer aux confidences. Je propose qu'on fonctionne en deux temps, peut-être permettre à nos différents intervenants de réagir sur ce que les uns et les autres ont dit, et je vous propose pendant ce temps de préparer vos propres questions. Voilà, est-ce que Eva Sass ou Dominique Seux souhaitent réagir ?
Oui, moi je voulais évidemment réagir aux propos de Dominique Seux, forcément, qui étaient faits pour ça d'ailleurs, pour que je réagisse. Mais non, c'est vrai que ce qui m'a fait peut-être le plus réagir, c'est la question du découplage. Est-ce qu'on peut continuer à avoir de la croissance et diminuer l'empreinte carbone. D'abord, c'est une question centrale, absolument centrale. Oui, bien sûr, il faut de la technologie, bien sûr, il faut des solutions innovantes. C'est peut-être la première chose par laquelle il faut commencer. Mais je ne suis pas d'accord, et vous l'avez dit, Xavier Ricard-Lanata, c'est que il n'y a pas aujourd'hui de découplage absolu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas concilier aujourd'hui la croissance avec une décroissance de l'empreinte carbone. Parce que vous avez parlé habilement des émissions de gaz à effet de serre. Les émissions de gaz à effet de serre, c'est ce qu'on produit sur les territoires. Or, malheureusement, ce qui s'est passé ces dernières années, c'est que nous avons délocalisé nos émissions de gaz à effet de serre dans d'autres pays. Donc, si on compte les émissions de gaz à effet de serre qu'on a dans nos importations aujourd'hui et depuis 5 ans, et vous le lirez d'ailleurs dans le dernier rapport sur les nouveaux indicateurs de richesse, l'empreinte carbone de la France est stable. Et vous savez, ça n'est pas possible de continuer avec une empreinte carbone stable si on veut atteindre les objectifs qu'on s'est donnés et qui sont nécessaires en gros à la survie de l'espèce humaine sur la Terre, c'est-à-dire de lutter contre le réchauffement climatique et de le limiter à 1,5 degré. Donc je pense qu'il faut pas, c'est important à mon avis de questionner la croissance et de ne pas faire croire que la technologie sera une solution à tout et qu'on peut continuer comme avant sans se poser de questions. Je pense qu'il y a ce qu'on appelle l'équation de Kaya, c'est-à-dire qui montre que, en gros, les émissions de carbone, c'est quoi ? C'est la croissance multipliée par le contenu carbone d'un point de PIB. Je le résume très sommairement. Et qui montre qu'en gros, pour diminuer l'intensité carbone d'un point de PIB, il faudrait une révolution technologique qui, en tout cas, pour l'instant, n'est pas arrivée. Donc, ça serait jouer avec le feu que de parier sur une évolution technologique qui, aujourd'hui, n'existe pas, pour dire que oui, on va pouvoir continuer à avoir la croissance que nous avons aujourd'hui et que la technologie suffira pour limiter le réchauffement climatique. Donc là-dessus, c'est vrai que je peux pas laisser dire qu'il n'y a pas à questionner la croissance de ce point de vue-là.
Merci Eva Sas. Dominique Seux.
Ça marchait. Non, je ne dis pas que la technologie est la solution à la croissance. Je dis que si on regarde la façon dont les transformations énergétiques sont en train de se passer, quand vous changez totalement le parc des véhicules légers, ce qui va se faire d'ici assez peu de temps quand même, en fait, vous aurez changé le profil des émissions de gaz à effet de serre. De manière, c'est une banalité. Donc, c'est un changement radical qui aura des effets, et c'est la technologie qui permet ça, et la technologie va beaucoup plus vite, d'ailleurs, qu'on le pensait encore il y a 5 ans. On aura un changement du parc assez rapide. Quand le diesel disparaît, il est en train de disparaître très rapidement dans les véhicules. Bon, c'est l'économie réelle, c'est la croissance qui est en train de et c'est la technologie qui est en train de trouver des solutions. Évidemment, ça n'est pas la seule solution et ça n'est probablement pas la clé, mais si on essaye de dire, en fait, il faut, alors vous n'aimez pas le terme décroissance, mais il faut accepter une croissance qui soit très faible, à zéro, et en fait ça va résoudre nos problèmes, que ce soit les problèmes de survie de la planète ou les problèmes de répartition des richesses, je ne crois pas. C'est un ensemble de sites de solutions très différenciées. Il n'y a pas de recette miracle ou d'indicateur miracle qui nous sauverait. La réconciliation, vous l'avez dit, la réconciliation des... Chacun est dans son couloir, effectivement, d'un côté les indicateurs de PIB, de l'autre côté les indicateurs de pauvreté. Des débats, oui, mais qu'est-ce qu'on en fait en termes de politique économique après ? Une fois, je trouve que la COP21, c'est une manière de réconcilier. 21, 22, etc., tout ce qu'on veut. C'est une manière déjà, et je maintiens l'idée que, en Europe notamment, ça progresse. Voilà, je trouve que ça progresse quand même, et assez vite. Voilà. Mais je suis un optimiste indécrottable.
Xavier Ricard.
Oui, non, moi je répète que la question centrale, ça n'est pas la croissance ou pas la croissance, c'est qu'est-ce qu'on produit, comment on le fait et comment on répartit la valeur. C'est ça la question centrale. Aujourd'hui, nous produisons d'une manière qui, a recours de manière massive aux énergies fossiles, deux, entretient et produit des déséquilibres sur le plan des capacités de reproduction des écosystèmes qui sont absolument inquiétants. Voilà, il n'y a pas que le cycle du carbone, il y a le cycle de l'azote qui est encore plus détérioré, qui est encore plus en situation critique que le cycle du carbone. Il y a le cycle de l'eau. Il y a les problèmes d'effondrement de la biodiversité qui font peser des menaces extrêmes sur la capacité de reproduction des écosystèmes et donc des sociétés humaines qui en dépendent. Bon, donc ça c'est le constat. Alors la question c'est de savoir comment peut-on vivre d'une façon qui soit compatible avec ces contraintes. On peut vivre d'une manière qui est compatible avec ces contraintes, mais d'une façon radicalement différente de celle qui a permis, depuis 200 ans, un accroissement, mais de quoi ? Des quantités d'énergie et de matière qui sont produites et consommées par habitant. Donc c'est une croissance qui était gagée là-dessus, sur l'augmentation des quantités d'énergie et de matière produites l'augmentation des consommations, et donc des productions, d'énergie et de matière par habitant. Bien. Et c'est à ça que nous associons notre prospérité. C'est à ça que nous associons la figure de la prospérité. Pour nous, être prospère, c'est avoir à disposition une plus grande quantité d'énergie et une plus grande quantité de matière à consommer par habitant. Bon, il y a peut-être une manière différente de nous représenter la prospérité. Moi qui ai vécu dans des sociétés traditionnelles, qui certes n'étaient pas parfaites, mais qui, du point de vue de la quantité d'énergie et de matière disponible par habitant, avaient un impact beaucoup plus faible que les nôtres, on peut pas non plus concevoir et imaginer que ces gens étaient totalement malheureux ou qu'ils ne se sentaient pas, qu'ils n'envisageaient pas leur vie comme une vie prospère. Hein. Vous savez, en quechua, le pauvre, le mot est... C'est huarctia. Huarctia, ça veut dire pauvre. Mais qu'est-ce que ça veut dire huarctia? C'est celui qui est sans relation. C'est celui qui vit seul. C'est celui qui n'est pas riche de relations. Donc quand j'apprends par mon ami Jean qui m'a transmis les résultats d'un rapport qui a été publié il y a peu, quand j'apprends qu'il y a en France 300 000 personnes en état de mort sociale, c'est-à-dire qui n'ont plus aucune relation sociale d'aucune sorte. Mais ça, c'est monstrueux de savoir qu'il y a il y a 300 000 personnes dans notre pays qui vivent dans cette situation. Voilà. Donc, ce que je crois, c'est qu'il faut certes croître, mais croître en relation, croître en vie, croître en capacité d'enthousiasme, capacité d'émerveillement, et que ça peut faire appel à des types d'activités, à des types de manières de vivre qui seront fécondes, mais qui peut-être s'accompagneront d'une réduction des quantités d'énergie et de matière consommées par habitant. Ça peut être, en effet.
Nous sommes d'accord.
Mais pour autant, est-ce que ça n'est pas une nouvelle forme de croissance dans d'autres domaines? Je pense que... Voilà, alors on aura beau jeu de me dire « Ah, mais Ricard, ce qu'il veut, c'est que on vive tous comme des bergers des Andes » ou je ne sais quoi. Non, pas du tout. Moi, je pense que... on dit souvent que la France des années 60 était une France dont l'empreinte écologique était de 1. Hein, aujourd'hui, l'empreinte écologique de la France, c'est 1,8. Ça veut dire qu'il faut 1,8 planète pour satisfaire, disons, le niveau de consommation, justement, de ressources, d'énergie, de matière d'un Français moyen. Bon, est-ce que dans les années 60, on était malheureux? Je ne sais pas. Voilà, donc vous voyez, c'est une réflexion.
Merci. Dans les années 60, il y avait des bidonvilles autour de Paris. Hein.
Certes, il y avait des bidonvilles autour de Paris. Ouais, oui, alors,
je pense que
on a des sites.
Nos trois intervenants pourraient rebondir indéfiniment sans vous laisser la parole. Si vous voulez le fin mot sur les aventures de Ricard chez les bergers des Andes, je vous invite à lire Blanche et la Terre où il raconte tout ça par le menu. Mais vous avez eu le temps de fourbir vos questions, donc la parole est à vous. On va prendre par salve de 3 ou 4 questions.
Bonjour à tous. Je demandais, j'ai cru comprendre qu'il y avait un manque de prise de conscience des politiques par rapport à la loi des nouveaux indicateurs, parce que le gouvernement n'a pas fait de communication, etc. Je me demandais si par rapport aux 5 facteurs clés de succès que vous avez cités, il ne fallait pas en citer un sixième, c'est-à-dire l'action, et pourquoi pas, par exemple, que le gouvernement définisse des objectifs quantifiables ou qualificatifs pour quelques indicateurs et qu'on fasse un bilan à court terme et à long terme pour pouvoir vraiment que les politiques prennent conscience de l'importance de ces nouveaux facteurs, parce que on peut voir que bah, des objectifs, ça peut, ils peuvent vraiment en prendre conscience, notamment on a pu voir les 3% du déficit, ou alors chaque mois on commente le taux de chômage, etc. Donc vraiment mettre un point, enfin mettre que ça soit un, que tous les indicateurs aient une place centrale dans l'activité de chaque gouvernement et dans la politique publique des différents gouvernements en France ou en Europe.
Merci. Une autre question ?
Oui, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter aussi aux indicateurs l'appétit à la sobriété, qui est un peu un oxymore, mais bon, puisque finalement la transition énergétique, elle est aussi un leurre. Il y a le livre de Guillaume Pitron qui est sorti il n'y a pas longtemps sur la guerre des métaux, qui montre qu'on ne fait que déplacer le problème et qu'on ne s'en sortira qu'en étant plus sobre.
Merci.
Oui, bonsoir. On nous prône l'achat de véhicules électriques. Donc, on va consommer plus d'électricité. En même temps, il faut en consommer moins et puis supprimer les centrales nucléaires. Il faut aussi acheter plein d'appareils électriques. Alors, moi, je comprends rien. D'autre part, concernant les années 60, je peux témoigner. Effectivement, matériellement, on avait beaucoup moins de choses, mais on se sentait protégé par la société, alors que maintenant, on a beaucoup de choses et on est, enfin, je suis personnellement sans arrêt agressée par la société.
Une quatrième, et puis on va repasser la parole à nos intervenants.
Oui, je voulais simplement savoir si à côté du décompte du commerce non déclaré de la drogue, on pourrait compter aussi l'activité non rémunérée de millions de personnes qui sont autrement plus un facteur de richesse que le précédent.
Merci pour toutes ces questions. Je ne sais pas qui veut commencer, peut-être Eva Sass sur la première question en particulier.
Oui, monsieur, vous parliez effectivement de fixer des objectifs. Enfin, d'abord, la prise de conscience des politiques, c'est ce qu'on cherche à déclencher. Mais justement, je pense qu'il ne faut pas attendre aujourd'hui d'un gouvernement, en tout cas en France, qui se mette à fixer des objectifs sur les nouveaux indicateurs de richesse. Malheureusement, c'est plutôt ça que notre but. Mais je crois que pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à en attendre. Quand j'ai dit que la loi avait été votée à l'unanimité, oui, mais elle a été votée à l'unanimité. Il devait y avoir 15 personnes dans l'hémicycle. Donc, c'est concrètement, oui, tout le monde est d'accord, mais parce que tout le monde considère que c'est un supplément d'âme qui coûte pas cher et qui n'a pas la vocation à devenir un véritable outil de pilotage des politiques publiques, en tout cas tel que c'est malheureusement utilisé aujourd'hui. Alors fixer des objectifs, oui, je pense que c'est une bonne idée, mais il faudrait que ce soit fait plutôt au niveau international, comme ça a pu être fait par exemple sur les émissions de gaz à effet de serre, par exemple dans le protocole de Kyoto, voilà. Ce type d'objectif-là, ça pourrait être intéressant. Mais même sans fixer d'objectif, s'il y a une véritable comparaison et un véritable classement des pays sur la base de ces indicateurs, je pense que ça ferait bouger les choses. Parce qu'on l'a vu dans d'autres cas, par exemple sur les études PISA, ça a fait réagir les gouvernements quand ils ont vu que leur pays était classé très mal du point de vue d'éducation. Il y a eu des réactions et des prises de conscience sur la base de comparaisons internationales. En gros, un gouvernement, il réagit quand on lui dit que son pays il est mal classé au niveau international, ou quand les électeurs pensent qu'il a échoué sur la base de ces indicateurs. Et c'est pour ça que, Dominique Seux, vous disiez tout à l'heure, il y a déjà beaucoup d'indicateurs. C'est vrai, il y a déjà beaucoup d'indicateurs. Et c'est vrai qu'il y a eu une évolution et qu'on ne regarde pas que le PIB. Au minimum, on regarde le chômage et l'endettement. Mais c'est vrai qu'on regarde même d'autres indicateurs, les émissions de gaz à effet de serre, un peu, le taux de pauvreté, un peu, les inégalités, un peu. Mais ça n'est pas sur ces bases-là qu'aujourd'hui, l'électorat évalue la réussite d'un gouvernement. Jamais il sanctionnera un gouvernement parce que les émissions de gaz à effet de serre ont augmenté, malheureusement. Jamais il ne sanctionnera un gouvernement parce que les inégalités ont augmenté. Ou peut-être par une perception individuelle, ça c'est possible, mais en tout cas pas sur la base d'un indicateur. Donc vraiment l'objectif, c'est vraiment ça, c'est d'en faire des outils d'évaluation de la réussite d'un gouvernement. Là, enfin, ça pourra vraiment avoir un effet sur les politiques publiques. Et à mon avis, c'est là où j'ai un petit désaccord avec vous, c'est à mon avis, c'est même pas complémentaire du PIB, à vrai dire. Parce que les véritables objectifs de nos politiques publiques, en tout cas moi c'est comme ça que je concevais le rôle de politique, pour moi c'était pas d'accroître le PIB. C'était d'accroître la santé de nos concitoyens, c'était qu'il y ait moins d'inégalités, c'était qu'il y ait une meilleure éducation, et c'est ça les véritables objectifs. Et en vérité, ça devrait être les objectifs centraux. Le PIB ne devrait être qu'un objectif intermédiaire. Ça, peut-être que ça peut y contribuer, mais peut-être pas. Et à la limite, c'est effectivement, comme vous le disiez, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, les gens soient en emploi, qu'ils aient une bonne santé, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faudra avoir ces indicateurs. Et je reviens sur l'actualisation, parce que, oui, ils existent, mais excusez-moi, on est en train de commenter aujourd'hui les inégalités de 2015 ou 2016. Ça peut nous donner des éléments sur le gouvernement Hollande. D'ailleurs, pas négatif, parce que en 2013, les inégalités ont diminué du fait de la politique fiscale. Voilà, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc, mais vous voyez, ça n'a eu aucun effet, en fait, dans l'opinion publique. Personne ne sait que les inégalités ont été réduites par le gouvernement Hollande en 2013, en vérité, quoi. Voilà, enfin, tout ça pour dire que, oui, il faut fixer des objectifs, mais oui, surtout, il faut des comparaisons internationales, et oui, il faut que l'opinion publique s'en saisisse pour évaluer l'action des gouvernements.
Personne n'a remercié François Hollande de la baisse des inégalités en 2013 parce que le taux de chômage était très élevé et que la première des inégalités, c'est quand même l'emploi ou ne pas avoir d'emploi. Donc, je ne suis pas d'accord pour dire que les indicateurs ne sont pas considérés par l'opinion publique. En 93, le gouvernement socialiste est tombé sur la hausse du taux de chômage. Ça a été la même chose pour l'inversion Lionel Jospin en 2002. Ça a été... Chirac est tombé en 88 sur l'ISF et le rejet par une partie des électeurs américains de Donald Trump, c'est quand même un peu aussi le rejet de l'accord climat, marginalement ok, mais quand même la prise de conscience par l'ensemble des opinions publiques de l'ensemble des indicateurs progresse, voilà. il me semble sur, non mais j'ai pas la parole en fait. Non, mais il faut répondre aux questions, donc je ne sais plus très bien.
Alors, les questions, j'aimerais bien vous entendre sur la sobriété.
Voilà.
Aussi sur madame qui entend des injonctions contradictoires, avec les véhicules électriques, etc. Et puis la comptabilisation de l'activité non rémunérée. Mais surtout sur la sobriété.
Moi, je crois énormément à la frugalité. C'est pas très différent, hein. Mais, au fond, sur le pays, je ne dis pas le PIB, c'est Dieu sur terre, c'est l'alpha et l'oméga. Bon, je dis simplement, il ne mérite pas tant d'indignité que cela. Il doit être complété, on va pas revenir là-dessus. Mais ce qui m'importe plus, c'est la qualité de ce que nous produisons plutôt que la quantité. Et effectivement, la quantité doit baisser inévitablement. Le nombre de voitures en circulation, électrique ou pas, va baisser. Mais elle va baisser grâce à quoi ? Il va baisser grâce à quoi ? Il va baisser grâce au covoiturage, c'est la technologie. Il va baisser grâce, comme le bon coin, c'est la technologie et permet le partage. Comme Google permet le partage du savoir, c'est la technologie à chaque fois, et c'est des petits bouts de croissance. Bon, on va pas ouvrir ce débat qui peut durer des centaines de siècles sur le rôle de la technologie. En revanche, si il y a un appel collectif et individuel à davantage de frugalité, alors là, il n'y a aucun doute là-dessus. J'ai publié un livre au printemps dont les deux derniers chapitres étaient consacrés exclusivement à ça, après avoir parlé de la croissance. Peut-on forcer les autres à avoir de la frugalité dans leur vie ? Méfions-nous un petit peu de nos comportements aussi, nous sommes certains, un certain nombre d'ici à vivre probablement plutôt bien. Bon. Attention à déclarer la frugalité pour les autres, à changer de modèle économique, qui a mille défauts bien sûr, mais qui se traduirait quand même par davantage de chômage. J'entends bien que l'Allemagne, C'est quand même un sport national en France de dire que l'Allemagne va très mal en réalité, malgré son taux de chômage à 5%, malgré ses comptes en excédent, malgré ses entreprises florissantes et malgré son industrie qui a des succès absolument mondiaux. Je vais très souvent en Allemagne. Je vous assure, en dehors des autoroutes, ça va plutôt bien. Le taux de chômage, le taux de pauvreté dont on dit qu'il est, et c'est vrai, un point supérieur au taux français. Où se concentre le taux de pauvreté en Allemagne ? Dans les ex-Länder de l'Est. Ça veut dire qu'en une génération, et c'est, je sais pas si c'est normal, mais en tout cas c'est un fait, en une génération, une et demie maintenant, il n'y a pas de rattrapage. Mais le taux de pauvreté dans l'Allemagne de l'Ouest, les ex-Länder de l'Ouest, il n'est pas du tout au 15% du taux national. Donc, je ne sais pas si c'est une jalousie générale que nous avons vis-à-vis du modèle allemand, un modèle allemand qui, sur le plan démocratique, quand même, quand on regarde l'Italie et le Brexit, ça reste quand même un modèle, je trouve. Je trouve que nous avons parfois des yeux un peu curieux pour l'Allemagne, qui a sans doute des défauts, mais faisons un petit peu attention à ça. Je déborde un peu du sujet, à vrai dire, là.
Absolument. Alors, on va pas trop s'attarder sur l'Allemagne. Simplement, sur la première question des indicateurs quantifiés, je me permets une petite page de publicité parce que dans le numéro, il y a tout un tas d'expériences de collectivités qui se sont dotées d'indicateurs quantifiés, que ce soit Jacksonville aux États-Unis, que ce soit São Paulo au Brésil, Grenoble qui s'y essaye en France, après la région Nord-Pas-de-Calais. Voilà, je trouve ces expériences qui méritent d'être soulignées. On a aussi une proposition qui est faite par l'économiste Éloi Laurent, précisément, qu'au moment de la discussion du projet de loi de finances au Parlement, on ne décide pas uniquement en fonction du PIB et puis du déficit par rapport au PIB, etc., mais aussi de deux ou trois autres gros indicateurs comme l'état du patrimoine de la France, y compris son patrimoine naturel, et puis la situation des inégalités. Alors, simplement sur la question, je suis pas sûr qu'on ait répondu à la question de madame tout à l'heure, Xavier, Ricard, Lanata, sur ce point.
Je suis frustré, évidemment, parce que je voudrais pouvoir discuter de l'ensemble des sujets qui sont soumis au débat. Hein, notamment, on pourrait parler de l'Allemagne longtemps. Moi, c'est aussi un pays que je connais bien, donc ça m'intéresserait beaucoup d'en parler avec vous, Dominique.
Je crois que il le dit à voix très basse.
Colosse au pied d'argile, à mon avis. Et d'ailleurs, voilà, la situation politique actuellement en Allemagne montre bien que la situation économique n'est pas si florissante que ça non plus.
Ouais, bref, c'est quand même les deux grands partis, centre droit et centre gauche.
Venons-en au fait, absolument. Moi, je voulais réagir à ce qu'a dit madame. J'ai trouvé ça très beau ce que vous avez dit, madame, quand vous dites autrefois, nous n'avions peut-être pas autant d'objets, mais la société nous protégeait. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'objets, mais je sens que la société m'agresse. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Aujourd'hui, une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à substituer au PIB un nouvel indicateur qui pourrait mieux répondre aux enjeux du temps présent, hein, et devenir la boussole qui permettrait d'évaluer les politiques économiques, c'est parce qu'il y a un débat fondamental, un débat philosophique sur ce qu'est la société. En fait, il y a deux grands courants parmi ceux qui essayent de repenser la question des indicateurs. Il y a un courant qui consiste à dire il faut intégrer dans la sphère de l'économie marchande et monétaire des choses qui jusqu'à présent en étaient exclues. Donc il faut accorder à la nature une valeur monétaire, il faut lui assigner un prix de façon à pouvoir mesurer la dégradation ou au contraire l'amélioration du patrimoine naturel. Hein. Donc il faudrait en quelque sorte faire de la nature une sous-composante des capitaux qui rentrent dans la production. Et même chose pour les relations sociales. Pour réussir à apprécier la qualité des relations sociales, leur contribution plus ou moins grande à la production, il faudrait leur attribuer un prix. Et à ce titre, on parle de capital social. On dit que les relations, c'est un capital. Donc, vous voyez, c'est une façon très économique de valoriser à la fois les ressources naturelles, les services écosystémiques et les relations sociales. évidemment, beaucoup disent, mais attendez, la nature, on peut pas la résumer simplement à un capital, c'est un organisme, on peut pas considérer que c'est un stock, et que quand vous avez une baisse du stock, vous pouvez la compenser par une hausse d'un autre stock, c'est totalement différent, ça reviendrait presque à, vous voyez, à additionner des pommes et des poires, donc ça n'est pas un stock, c'est un organisme qui a besoin de flux, les flux sont rétroalimentés, et donc le problème c'est la viabilité globale, et non pas la variation du niveau de stock. Bon, la deuxième tendance, c'est de dire ce qui toutes ces questions essentielles aujourd'hui à la reproduction des sociétés ne peuvent pas être monétarisées, il faut les apprécier qualitativement. On peut pas leur assigner des valeurs monétaires ni même quantitatives, il faut les apprécier qualitativement. Et donc là vous avez des indicateurs qui essayent d'évaluer la soutenabilité, la résistance, la robustesse des systèmes sociaux et des systèmes naturels. Moi, je pense que la réponse à la question que vous venez de dire, que vous avez soulevée en quelque sorte par votre intervention, c'est que il faut refaire société pour justement se départir de ce sentiment d'une déliquescence de la société. Hein. Il faut montrer à ceux qui ne croient pas en l'existence d'une société et qui ne cherchent à apprécier les richesses que d'un point de vue monétaire et quantitatif, ceux qui disent « there is no such thing as society », comme disait Margaret Thatcher, la société ça n'existe pas, ce qu'on a c'est du stock et des flux. Eh bien, répondre à cette vision en montrant que précisément le débat sur les indicateurs permet de faire société et que précisément en débattant, en discutant, en se dotant d'instruments d'évaluation, d'appréciation de nos propres trajectoires sociales, eh bien nous faisons société et nous prouvons en quelque sorte que la société c'est une réalité performative, elle produit
merci
de la
Xavier.
Valeur. Voilà, elle produit alors, nos indicateurs, elle produit de la valeur.
J'entends merci. moins de bien, plus
que je
de
peux
bien.
Me permettre une boutade, non?
Vas-y, une boutade. Il y a toujours de la place.
Ça ne sortira pas d'ici. Quand les religieuses du Vatican demandent à ce que leur travail soit mieux reconnu ces dernières heures, il me semble qu'elles demandent une reconnaissance monétaire.
Alors.
C'était une boutade.
On va reprendre une série de questions.
Antoine? Oui, moi je voudrais. Ça fonctionne ? Donc, je voudrais dire quelque chose et poser une question. Peut-être dire un peu ce que Xavier vient de dire à l'envers. Je suis assez frappée que dans le débat de ce soir, on ne parle pas du tout de finance. Je voudrais dire que la finance est très mal mesurée par le PIB, puisque les intérêts des crédits bancaires ne sont pas soumis à TVA, donc ne font pas partie du PIB. Et je voudrais dire aussi que je crois que le monde s'est énormément financiarisé avec une croissance dans les pays développés, enfin les économies avancées, dans les 40 dernières années, du crédit de 15% par an, pour une croissance économique de 5% par an. Donc j'ai l'impression que cette financiarisation de l'économie, qui a probablement beaucoup de conséquences sur les inégalités, sur la pauvreté, etc., n'est pas du tout mesuré par le PIB. Et est-ce que il ne faudrait pas veiller quelque part à mieux mesurer cette finance et les effets qu'elle a sur notre société, surtout si on pense qu'elle contribue au délitement de la société qui vient d'être évoquée.
Merci beaucoup. Absolument. Et une autre question ici ? Là, pardon.
Oui, bonjour. Je suis agronome et j'ai vécu longtemps au Maroc. J'ai eu la chance d'être à l'époque dans un pays qui était encore extrêmement uni, c'est-à-dire que les différentes situations sociales n'étaient pas très élargies et chacun avait la possibilité de vivre et surtout de vivre dans un milieu social qui l'entourait, dans lequel il y avait une compréhension, c'est ce que vous avez dû vous-même retrouver dans les Andes. Et il me semble que le drame aujourd'hui, c'est bien précisément cette incapacité des sociétés modernes à trouver une agrégation des intérêts, des envies et des désirs pour faire ensemble une société et faire en sorte que chacun se sente bien dans la société dans laquelle il est. C'est tout le drame européen, peut-être américain, Et c'est un drame sur lequel nous, chrétiens, nous avons évidemment beaucoup à dire, à faire, à agir. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette question sur le plan du christianisme ?
Merci beaucoup. Il y a une question devant ?
Oui. Du coup, un petit ajout sur la question, non pas précédente, mais juste avant, sur la finance, à laquelle je n'avais pas pensé, c'est aussi la partie d'évasion fiscale, qui n'est pas prise en compte aujourd'hui dans le PIB. Ah. Que pensez-vous de ça ? Le sens de ma question était la suivante, je vais m'aventurer sur quelque chose, c'était par rapport à ce que vous disiez, Dominique Seux, sur le fait que le PIB ne mérite pas d'indignité. Donc je tente le « et si justement il méritait une indignité pour deux raisons. Premièrement, vous disiez, vous avez plutôt proposé une démonstration pas l'absurde en disant un mauvais taux de croissance a plutôt un certain nombre de conséquences qui sont mesurées. Et si c'était une tautologie ? Puisque dans un monde où tout notre appareil gouvernemental, toutes nos institutions publiques, et jusqu'à nous, en tant que consommateurs qui vivons tous les jours l'injonction de devoir consommer pour nourrir le PIB, on ne vivait pas le fait que, bah, bien évidemment, quand la croissance n'est plus là, tout l'appareil est en incapacité de redistribuer, de créer les biens culturels, l'éducation, la santé qui est nécessaire. Donc bien évidemment que les choses vont mal. Mais ce n'est pas une démonstration que le PIB est un bon indicateur, c'est juste une démonstration par l'absurde que notre société est organisée autour de ça et donc elle va mal tant qu'on ne décide pas de refaire la maison sur d'autres, de reposer sur d'autres rails qui ne sont pas forcément la décroissance, qui sont tout simplement autre chose, et enfin de s'en émanciper. Auquel cas, du coup, on n'aurait plus la preuve que le PIB est un bon indicateur. Et j'irais même un cran plus loin en disant, est-ce qu'il n'y a pas un péché originel dans le PIB qu'on connaît bien, qui est le fait d'avoir construit les rails d'une société qui rêve d'un petit pourcentage de plus chaque année, qui veut dire une courbe exponentielle, qui de toute façon est incompatible avec un monde fini dans lequel nous vivons. Et du coup, à partir de là, il mérite peut-être justement une bonne fois pour toutes qu'on le jette à la poubelle, pas pour créer l'indicateur inverse de décroissance, juste pour dire maintenant ça suffit. Je tente.
On va prendre une dernière question tout au fond.
Oui, j'ai cherché dans les différentes interventions quelque chose qui fasse lien entre croissance et éthique. Je suis sociologue. Quand j'écoute et j'observe la société civile, ce qui me frappe souvent, c'est l'insatisfaction, le mal-être, la souffrance en France, comme titrait Christophe Dejour. Le problème n'est pas uniquement la pauvreté et le différentiel d'avoir, je crois qu'on l'a dit. Ce sont des conditions de travail et de vie, des ruptures de symbiose entre la nature, l'homme et la culture, et pourquoi pas un déficit d'éthique dans l'action individuelle et dans l'action publique. À quand un indicateur de souffrance en société postmoderne ?
Merci. Alors les questions sont amples. Peut-être commencer par celle sur celle qui est directement destinée à Dominique Seux sur la tautologie et cette société organisée autour du PIB qui a été posée par Christophe Alliot, et puis sur cette non prise en cause de la financiarisation.
Sur la finance, oui madame. Vous avez mille fois raison. Évidemment qu'il faut faire rentrer le dentifrice dans le tube. Il y a eu trois vagues de financiarisation. La première, c'est la déréglementation, 80-90. Ensuite, il y a eu la mondialisation. Et maintenant, c'est la troisième phase, ça a été celle de la crise, avec les politiques monétaires expansives, à taux d'intérêt très bas et des liquidités déversées. Et on ne sait plus faire. Enfin, on. Le système, ça ne veut pas dire grand-chose, le système, mais. Le dentifrice ne rentre plus dans le tube, il menace de déborder, et on se demande absolument, on sait qu'une prochaine crise financière, il y en a tous les 7-8 ans. Bon, depuis l'éternité des temps, mais évidemment dans un monde plus intégré, ça a des conséquences un peu partout. Ça devrait être, alors il y a des la Banque des règlements internationaux, qui est une instance on ne peut plus sérieuse, voire ennuyeuse, avertit très régulièrement, deux fois par an, rapport semestriel, pour dire « attention, on va dans le mur ». C'est un souci, vous avez entièrement raison. Voilà. La tautologie, la démonstration par l'absurde. Ben, la meilleure façon de rompre cette démonstration par l'absurde, ce serait, un, de trouver un autre système économique, un autre indicateur. Et à défaut, puisque pour l'instant on ne voit pas, on n'entend pas, on en parle depuis des décennies, mais ça ne vient pas. Bon, la meilleure solution serait de se dire, au fond, essayons d'étendre le champ de la gratuité. de l'échange gratuit, non monétaire, peut-on observer que ce champ, de jour en jour, s'étend, s'agrandit? Je regarde le Bon Coin qu'on évoquait, je regarde Blablacar, je regarde les systèmes, les SEL, je regarde... Ce n'est pas l'impression qui domine aujourd'hui. Donc peut-être que chacun est amené à faire progresser autour de lui l'échange gratuit. Mais c'est plus une révolution individuelle que collective, parce que sur le plan collectif, on semble qu'on a un petit peu de mal à inventer. Quand on aura un système à proposer à la place du PIB, de la croissance, etc., on achètera tous. Peut-être que ça viendra d'une façon très simple. Il est possible que dans 5 ans, dans 10 ans, et je me tourne vers vous, le PIB n'aura plus aucun intérêt parce que le seul indicateur qui nous intéressera matin, midi et soir sera celui du réchauffement. Parce que les conséquences seront dramatiques, elles le sont dans certains pays déjà, elles le seront peut-être partout plus tard. Peut-être que le PIB de lui-même disparaîtra et que les médias ne parleront que du réchauffement. Et on en tirera un certain nombre de conclusions. Mais franchement, on ne sait pas encore lesquelles. On n'a pas inventé ce système, nulle part sur la Terre pour l'instant, me semble-t-il. Mais bon.
Merci. Eva Assas, peut-être notamment sur l'indicateur de souffrance sociale.
Oui, c'est exactement ce dont j'avais parlé. Alors, je sais, il n'y a pas d'indicateur de souffrance sociale, mais enfin, déjà, il y a l'indicateur de le taux de satisfaction dans la vie. Mais moi, ça m'a surtout fait penser à l'expérience du Bhoutan. On a fait un voyage d'études avec le CCFD, d'ailleurs, au Bhoutan. Et ce bonheur national brut dont on parle souvent et dont on ne connaît pas forcément le contenu, en fait, il consiste en une enquête qui est très approfondie et menée auprès d'un échantillon extrêmement large de Bhoutanais avec toute une série de questions. C'est pas du tout sur le même modèle que les indicateurs que j'ai présentés. C'est une enquête très approfondie avec énormément de questions. Et il y a certaines questions qui pourraient nous surprendre en tout cas les sociétés occidentales, qui sont quel temps consacrez-vous à la vie familiale, quel temps consacrez-vous aux relations sociales et quel temps consacrez-vous à la pratique spirituelle. C'est une société en fait extrêmement religieuse. C'est aussi là-dessus que repose d'ailleurs la philosophie du bonheur national brut. C'est une société aussi très conservatrice. Donc c'est sur la préservation de la vie traditionnelle et des pratiques spirituelles. Et il y a de nombreuses questions dans l'indice de bonheur national brut qui concernent en fait cette partie-là. Donc si on allait jusqu'au bout de l'expérience des indicateurs alternatifs, oui, on pourrait avoir des questionnaires qui pourraient englober tous les aspects de la vie sociale et aller jusque-là. Après, je suis pas sûre que l'acceptabilité dans les sociétés occidentales soit la même que dans la société bhoutanaise et que ces questions ne soient pas considérées, à vrai dire, comme intrusives dans les sociétés occidentales. Voilà. Mais en tout cas, c'est à cette expérience-là que ça m'a fait penser. Je pense qu'on peut avoir effectivement des choses qui s'approchent, même si c'est pas forcément de même nature. Je voulais dire un mot aussi peut-être de comment est-ce qu'on repense un modèle économique qui ne soit pas basé sur la croissance, parce que j'étais entièrement d'accord avec votre intervention, monsieur. Notre problème, c'est effectivement que notre modèle, il est entièrement basé là-dessus. Donc effectivement, dès qu'il n'y a plus de croissance, oui, c'est vrai, bien sûr, il y a des problèmes de financement public, des problèmes de chômage qui découlent en fait de cette absence de croissance. Moi, je crois qu'il y a quand même une clé qui est la question des inégalités, de la répartition des richesses. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit le niveau de vie du plus grand nombre ne peut pas s'accroître s'il n'y a pas de croissance, si, il peut parfaitement s'accroître avec une répartition des richesses qui est différente. Seulement, il faut affronter ce problème-là. Je ne dis pas du tout que c'est facile. Je pense que c'est extrêmement difficile d'inventer un autre modèle. Mais je pense qu'il faut avoir le courage d'affronter que oui, ça va poser des problèmes, ça va poser des questions et ça va demander des actions assez volontariste en matière de répartition de richesses. Et oui, il faut à un moment donné qu'une partie de la population accepte de voir son niveau diminuer au profit du plus grand nombre. Parce que le plus grand nombre peut continuer à voir son niveau de vie augmenter s'il y a une nouvelle répartition de richesses. Mais il faut toucher à quelques clés comme ça qui sont un peu difficiles, c'est évident, mais Je pense qu'à un moment donné, dans un monde fini, il faudra se poser les bonnes questions quand même.
Alors, le monde est fini, le temps est fini aussi, donc je vais demander à Xavier Ricard d'être extrêmement bref.
Je sais faire. Moi, je pense qu'il faut, il faut approfondir cette idée que le modèle économique est basé sur la croissance. En réalité, c'est nos politiques économiques qui sont basées sur un indicateur qui est la croissance. Mais de quoi ? La croissance du PIB. C'est pour ça que c'est tautologique. Parce que précisément, quand on parle de croissance, on parle de croissance du PIB. Donc forcément, PIB et croissance semblent être équivalents. Mais ça n'a pas de raison d'être comme ça. On peut imaginer des politiques économiques qui soient basées sur la croissance d'autre chose. Bon, donc ça c'est un premier élément, hein, et qui, encore une fois, nous permet de décorréler le débat sur la croissance, c'est-à-dire sur le fond de l'activité, du débat sur les indicateurs. Mais les indicateurs sont des aiguillons pour nous amener à nous poser les vraies questions qui sont celles précisément de l'activité. En revanche, notre modèle économique, il repose sur quoi ? Il repose sur un type, un système de création de richesses et de production de valeur qui est le système capitaliste. C'est ça le modèle économique. Le modèle économique, c'est un système, un patron d'accumulation qui repose sur l'accumulation du capital. Et peut-être que la vraie question, c'est de savoir si un type de croissance qui ne serait pas la croissance du PIB, qui serait la croissance d'autre chose, est compatible avec un modèle qui repose, lui, sur le capitalisme comme système global d'accumulation et de reproduction du capital. Ça, c'est une vraie question, peut-être pour un prochain débat ou un prochain numéro de la revue Projet.
Merci beaucoup, Xavier. Alors, je ne m'essaierai pas à synthétiser l'ensemble des échanges de ce soir.
Est-ce que le public peut insister pour qu'il synthétise?
Je m'excuse aussi auprès de celles et ceux qui auraient voulu poser des questions et prolonger des échanges. Le temps, évidemment, passe. Simplement, je pense qu'on n'a pas tout à fait répondu à la question sur le christianisme. Je me contenterai de renvoyer peut-être à la plus belle contribution qu'a pu faire le christianisme ces dernières années, qui est l'encyclique Laudato Si du pape François, qui est probablement la meilleure réponse que l'on puisse apporter à la question que vous posiez. Et puis, à vous inviter à vous arrêter à la sortie à la table de la revue Projet, puisque si vous voulez en savoir plus sur l'indicateur de santé sociale qui est utilisé dans le Nord-Pas-de-Calais, par exemple, ou sur le Bhoutan, ou sur le bien-vivre utilisé en Amérique latine, ou encore sur comment mesurer autrement la richesse dans l'entreprise, là il y a Patrick Vivret qui fait des propositions en ce sens, vous trouverez tout ça dans le dernier numéro de la revue Projet. Il me reste à vous remercier grandement et à passer la parole et à remercier nos intervenants, évidemment. Il a passé la parole à Jean-Luc Poutier pour le mot de la fin.
Un mot très bref pour vous remercier les intervenants bien sûr pour ces contributions tout à fait passionnantes, remercier Jean Merkert pour son animation rigoureuse et vous dire un mot du prochain mardi d'éthique publique. Ce sera le mardi 3 avril, il sera consacré à la question du retour du religieux, retour ou non-retour du religieux, avec la participation de Guillaume Cuchet, qui vient de publier un livre remarqué « Quand notre monde a cessé d'être chrétien », et la participation également du pasteur Jean Arnold de Clermont, qui a été président de la Fédération protestante de France et qui préside aujourd'hui l'Observatoire Pharos sur les religions dans le monde. Donc nous pouvons vous donner rendez-vous le mardi 3 avril pour ce débat autour, le titre n'est pas encore complètement fixé, du retour ou du non-retour du religieux. Merci à toutes et à tous.
Impeccable.
Non. Je n'ai pas été sollicité. Je suis revenue. J'étais associée. Oui, c'est ça. Mais comme j'ai toujours été, j'étais associée chez Alpha.